Nous allons revenir à notre épître aux Galates. Cette épître aux Galates, je le dis en marge de l'étude de ce matin, l'épître aux Galates va nous amener face à un très grand sujet, et un sujet qui est toujours actuel, qui est même terriblement actuel en cette seconde moitié du XXe siècle. C'est la question de la loi et de la grâce, et de l'accomplissement de la loi. Comme toujours, au cours des siècles, mais avec plus ou moins d'intensité, il y a, vous savez, au cours de l'histoire du christianisme, des vagues qui se sont présentées, n'est-ce pas, des vagues hérétiques, pas, tantôt une poussée dans un sens, tantôt une poussée dans l'autre sens, et aujourd'hui nous ressentons, bien sûr, une poussée dans un sens où déjà l'hérésie s'est manifestée, mais nous le ressentons particulièrement, un abandon des commandements, de la mise en pratique de l'Écriture sous toujours le fallacieux prétexte que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et l'on tire de cela des conséquences qui sont absolument hérétiques, c'est-à-dire opposées à la vérité professée par la Sainte Écriture. Il est vrai que nous avons des déclarations comme « Christ est la fin de la loi, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, nous sommes morts à la loi ». Nous allons voir tout cela, nous sommes morts à la loi. Et alors, il est aisé, évidemment, d'en tirer cette déduction. Eh bien alors, la loi est un document caduque, on n'a plus à s'occuper de ce qu'elle dit, elle n'était pas pour nous, elle était pour les Juifs, c'est fini, n'est-ce pas, plus de loi, plus rien, nous ne voulons plus entendre parler de cela, c'est la liberté, la grande liberté. Alors, nous en revenons, évidemment, à la thèse appelée la liberté permissive qui est le propre de notre époque actuellement. Et cela est évidemment très dommageable à la foi et bien sûr au salut. Nous verrons, et je me servirai de texte en dehors même de celui des Galates, pour vous montrer ce que Christ lui-même fait de la loi, comment il envisage la loi, et ce que devient la loi dans le champ de la nouvelle alliance apportée par Jésus, fondée sur le sang rédempteur, n'est-ce pas, que devient la loi, qu'est-ce que Christ lui-même en fait, indépendamment même des enseignements de l'apôtre Paul. Ce n'est pas que je veux détacher ces enseignements du reste de l'Écriture, mais on a souvent, n'est-ce pas, eu cette optique, tiens, c'est la thèse de Paul, c'est la théologie de Paul, enfin, plus particulièrement, eh bien non, ce n'est pas la théologie de Paul, seulement Paul l'exprime d'une façon plus large que ne l'a fait le Seigneur Jésus-Christ, dont les paroles sont toujours très concises. Elle se présente comme vraiment un condensé de cette haute science de la vérité. Eh bien, revenons maintenant à notre texte et prenons le chapitre 2. Au verset 11 seulement, j'abandonne les 10 premiers versets qui sont plus des circonstances. Et j'en viens au verset 11. Nous lirons le verset 11, du verset 11 au verset 21. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Nous avons dans les premiers versets que nous venons de lire, 11 à 14 inclus, la relation d'un incident qui s'est produit à Antioche, incident qui a amené l'apôtre Paul à reprendre l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul, plus fraîchement apôtre que Pierre, et qui, lui, n'a pas été le témoin des œuvres du ministère de Christ, ni le témoin de sa résurrection, eh bien, Paul reprend l'apôtre Pierre. Apôtre Pierre, que vous savez, le catholicisme a appelé le prince des apôtres, c'est-à-dire que Pierre a eu effectivement un rôle premier. Il a eu un rôle premier, cela n'est pas douteux, mais ce rôle-là n'était pas transmissible à d'autres. Pierre avait donc usé de la liberté chrétienne, liberté des enfants de Dieu, et il s'était mis à table avec des païens, ce qui veut dire aussi qu'il avait entrepris avec eux d'excellentes relations courantes, comme avec des juifs. Il avait vécu avec la même aisance au milieu des païens qu'au milieu des juifs. Et c'est lui, en effet, qui avait appris à faire la distinction entre les païens, à ne pas faire de distinction plutôt entre les païens et les juifs. Je fais allusion à cette vision de la nappe qui nous est relatée dans le livre des Actes au chapitre 10. Cette vision fut donnée à Pierre pour l'inviter à se rendre chez Corneille. Voici ce que dit le livre des Actes, chapitre 10, verset 10. « Il eut faim et voulut manger, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il s'agit de Pierre. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre va chez Corneille et il annonce l'Évangile à Corneille et à sa maison, et puis tous se convertissent, reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais ensuite, Pierre est contesté par ses compagnons et il est obligé de se défendre, mais il leur dira, « Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement, je ne pouvais pas ne pas suivre, n'est-ce pas, et leur refuser l'eau du baptême. » Mais Pierre, qui donc a appris par cette vision et par cette démarche qui lui a été donnée de faire chez Corneille, il a appris à ne pas faire de distinction, à ne plus faire de distinction entre les païens et les juifs, et le voici que tout à coup il change d'attitude à Antioche. Il se sépare. Il nous est dit qu'il s'esquiva, et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Et les verbes qui sont employés dans le grec sont très forts. On peut les traduire par une accumulation de termes. Il se sépara, il se déroba, il déserta, il prit la fuite, il se cacha, n'est-ce pas? Vous voyez, tous ces verbes, n'est-ce pas, ont ces sens assez forts. En somme, il adopte une attitude absolument opposée à celle qu'il avait précédemment au milieu des païens. Et cela parce que arrivent à Antioche quelques envoyés de Jacques. De Jacques, qui était considéré comme le chef de l'église de Jérusalem, dit-on, mais qui était le frère du Seigneur. Et Jacques, dont nous avons une épître, un écrit, Jacques était très attaché aux prescriptions légales des Juifs. Mais il avait montré cependant que pour les païens, il en était autrement. Lui, il estimait que les Juifs devaient continuer l'observance des prescriptions légales. Et Pierre, alors, conçoit en lui la crainte des circoncis, la crainte des hommes, la crainte d'être jugé, d'être vu comme un renégat, n'est-ce pas? Et alors, bien vite, il change de manière de faire. Pierre, en somme, affecte une soumission au judaïsme à cause de ses envoyés de la Judée, une soumission au judaïsme dont il s'était pourtant affranchi en la seule présence des païens. Il n'avait eu aucun scrupule en présence des païens à s'affranchir de beaucoup de ses observances judaïques. C'était la crainte des hommes qui lui inspirait ce volte-face. Et pourtant, vous voyez, indépendamment de cette vision de la nappe dont nous venons de relire le récit, Pierre avait lui-même déclaré, lors de ce qu'on appelle le premier concile, le concile de Jérusalem, on aime bien lui donner ce nom pour autoriser les autres conciles. Enfin, qu'il s'appelle concile ou non, il y avait eu à Jérusalem une grande discussion lors d'une réunion en raison précisément de ce qui s'était passé à Antioche. Et voici quelle avait été la déclaration de Pierre lors de cette grande réunion. Acte 15, verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous, nous qui sommes des Juifs, et eux qui sont des païens. » C'est moi qui ajoute cela, n'est-ce pas ? « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, provoquez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Donc il était clair que les païens étaient visités au même titre que les Juifs par la grâce de Dieu et que Pierre ici, n'est-ce pas, voyez, a clairement soutenu cette thèse ouvertement et avec même courage, soutenu cette thèse. Or, voici que là, dans cette circonstance, à cause des hommes venus de la Judée, qui sont, eux, judaïsants, voici que Pierre, n'est-ce pas, opère cette volte-face. C'est une hypocrisie, ni plus ni moins, et c'est pourquoi Paul n'hésite pas à employer le terme. Le revirement de Pierre eut pour conséquence immédiate d'entraîner d'autres Juifs qui étaient là à Antioche, et notamment Barnabas. C'était quelque chose qui était douloureux au cœur de Paul, entraîner Barnabas et des Juifs dans la même dissimulation, en s'écartant des païens convertis, qu'on appelle généralement les pagano-chrétiens, par opposition aux judéo-chrétiens, n'est-ce pas, les paganos, ceux qui étaient venus du monde païen, à la foi en Christ, les pagano-chrétiens. Alors, en s'écartant de ces pagano-chrétiens, Pierre coupait l'Église en deux fractions. Il opérait une scission. L'avantage de la décision prise par les apôtres à Jérusalem risquait d'être annulé. Et c'est pourquoi Paul était intervenu en la circonstance avec tant de vigueur. Pierre n'entendait certainement pas remettre en question le salut par grâce qu'il avait lui-même, nous l'avons lu, annoncé, n'est-ce pas, dans ce concile de Jérusalem. Il n'entendait pas non plus remettre en question la liberté des chrétiens, mais tout simplement, il commet une faute, il tombe dans un péché de dissimulation, d'hypocrisie, par la crainte des hommes. Ah, c'est quelque chose de fort, la crainte des hommes, la crainte du jugement des autres, n'est-ce pas ? Et cette crainte des autres, du jugement des autres, dont on connaît la pensée, la position, eh bien, Elle joue en nous. Comment joue-t-elle en nous? Tout simplement parce que nous attachons à notre personne et à notre réputation, cette réputation que nous voulons particulièrement soigner, nous attachons beaucoup trop d'importance. Si il nous importait peu que notre personne soit vue d'une telle ou d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, eh bien, nous ne céderions pas à la crainte des hommes. Pierre est donc inconséquent, tout à fait inconséquent, avec la doctrine du salut, doctrine qu'il a donc lui-même prêchée, soutenue. Il est inconséquent. Mais il faut dire que, bien que le passage, la relation de Paul ici dans les Galates ne nous dise rien de l'attitude de Pierre après cette répréhension qu'il s'entend adresser par Paul, eh bien, il faut penser qu'il reconnut son erreur et s'inclina humblement. Il ne dit rien, il ne répond rien. Donc, Pierre accepta la répréhension de Paul. En se mettant à observer la loi à cause des envoyés de Jacques, eh bien, Pierre professait que cette observation de la loi était nécessaire au salut, contrairement à ce qu'il avait dit. Il, par son attitude, en somme, montrait que l'observation du judaïsme était d'abord nécessaire pour parvenir au salut. Ce que beaucoup avaient enseigné clairement, n'est-ce pas? Ils disaient aux païens, commencez par devenir des juifs, et quand vous serez des juifs, alors là, vous irez, vous passerez en somme d'une alliance dans l'autre, vous irez à l'alliance de la grâce, mais il faut d'abord passer par l'ancienne alliance. Alors, Pierre, par conséquent, professait que cette observation était nécessaire au salut, et par l'autorité de son exemple, il obligeait moralement les pagano-chrétiens à judaïser, et c'est le reproche que lui fait Paul, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Tu les forces par ton attitude, tu les forces par l'exemple que tu leur donnes, et ton exemple revêt toute l'autorité de ton apostolat. Tu es l'apôtre Pierre, tu es une colonne dans l'Église. Alors tu obliges les paganos chrétiens à judaïser, alors que toi, quand tu n'es pas observé par des juifs, eh bien, tu es libre au milieu des païens. La grande question à ne pas remettre en cause était celle débattue par Paul dans les Romains et dans les Galates, à savoir que l'homme est sauvé par grâce et non par les œuvres de la loi. Sauvé par grâce et non par les œuvres de la loi. Bien que, alors j'ajoute ceci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous serons obligés d'y consacrer certainement une séance, une étude pour le moins, nous allons voir que la loi ne peut pas être considérée comme vaine, comme inutile, comme abandonnée, et que, au contraire, il faut qu'elle soit observée. Il faut qu'elle soit observée. Mais nous verrons cela, nous dégagerons cela des paroles mêmes du Seigneur Jésus-Christ. Il y a, chez l'homme, il faut bien le reconnaître, il y a toujours, il y a encore, chez l'homme, une tendance très forte, tendance de la chair, à vouloir travailler lui-même à son salut. Et les religions qui ont ce principe, l'homme fait son salut, on lui prescrit un certain nombre de, disons, de choses qu'il doit faire, de, si vous voulez, d'actes qu'il doit accomplir, et alors l'homme est censé obtenir son salut de son propre effort, de son propre travail, de ses propres mérites. Et ça, c'est une pente qui attire toujours l'homme. En somme, l'homme veut obtenir de Dieu son salut contre un paiement en mérite, ce qui porte atteinte, nous l'avons dit hier, à la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu doit être intacte, absolument intacte, intégrale dans l'œuvre du salut de l'homme. Si, je disais hier, un petit grain de poussière seulement venait là pour aider par sa toute petite masse au salut de l'homme, eh bien ce salut ne se ferait pas, car il serait imparfait. Il n'y a que la souveraineté de Dieu qui puisse créer la perfection, qui puisse apporter la perfection. C'est pourquoi il faut que le salut soit dû 100% à la souveraineté de l'homme. Le petit grain qui viendrait de l'homme, qui viendrait de sa chair, qui viendrait de ses mérites, qui viendrait de son œuvre, en admettant que ce petit grain puisse être pris en considération, ce serait un grain qui souillerait. Et par conséquent, il n'y aurait pas possibilité d'accession à la perfection. Le salut, c'est l'accession à la perfection. L'éternité ne peut pas se concevoir en dehors de la perfection. Et il faut qu'il y ait cette promotion à la perfection. C'est Dieu qui s'en charge. Ce qu'il nous demande, c'est pour autre chose. Mais lui, le salut, il le prend à sa charge entièrement, 100%. C'est la gratuité du salut. Il va nous demander, nous, en somme, par la foi, n'est-ce pas, eh bien, de nous livrer à son œuvre. En somme, ce que nous faisons par la foi, c'est de nous livrer à Dieu, de nous livrer à Christ, de nous livrer à l'amour. Mais ce n'est pas de faire notre salut. Le salut, c'est Dieu qui s'en charge, c'est la souveraineté de Dieu qui l'opère entièrement afin que nous puissions être amenés à la perfection. Ensuite, dans le passage que nous avons lu, l'apôtre Paul va parler, comme il l'a fait dans l'épître aux Romains, de la justification par la foi et non par les œuvres. Que l'on soit juif ou que l'on soit païen, expose-t-il, la justification de tout homme s'opère par l'action de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la foi en Jésus-Christ va prendre, va chercher ce qui est prêt et ce qui découle de la souveraineté de Dieu, de la pleine souveraineté de Dieu. C'est quelque chose qui nous est préparé, qui est là, et la foi, c'est tout simplement l'acte libre et possible, puisque Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, c'est donc l'acte libre de l'homme qui va prendre possession parce qu'il veut, parce qu'il désire ce salut. Ici donc, Paul reprend la question du salut à sa base pour amener la suite de sa démonstration visant à détruire la mauvaise influence des docteurs judaïsants. N'oublions pas que dans cet épître, le but de l'apôtre est bien celui-là de détruire ce faux enseignement qui a été apporté par des docteurs judaïsants. Et alors, c'est pourquoi l'apôtre s'était servi de cet incident qui avait eu lieu à Antioche, et de cette répréhension qu'il avait dû adresser à Pierre. Ce n'est pas pour se donner un avantage qu'il rapporte cet incident. D'ailleurs, il l'abandonne très vite, il ne nous dit pas comment tout s'est réglé en fin de compte, n'est-ce pas? Il montre simplement qu'il a dû reprendre Pierre et que l'attitude de Pierre n'est pas à considérer maintenant, en admettant qu'il soit connu des Galates, comme un exemple. Peut-être même les judaïsants, les docteurs judaïsants, s'étaient-ils emparés de l'attitude de Pierre à Antioche, n'est-ce pas, pour se donner argument devant les églises de la Galatie. Eh bien, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, va reprendre, lui, cet incident et dire « Pierre n'a pas prêché par l'exemple, à telle enseigne que je l'ai repris et qu'il a, en somme, accepté cette observation que je lui ai faite. » Si nous admettons, nous qui admettons le salut de l'homme par la foi en Jésus-Christ, si nous restons pourtant dans le péché, nous dit l'apôtre, en ramenant le comportement judaïque qui laissait les hommes dans leur péché, si nous ramenons ce comportement, nous allons nous aussi rester dans le péché, ne ferions-nous pas à ce moment-là de Christ un ministre du péché? Nous avons connu Christ, n'est-ce pas? Nous admettons le salut de l'homme par la foi en Jésus-Christ. Et si alors nous ramenons les pratiques judaïques au milieu de nous, pratiques qui ne sauvaient pas, pratiques qui laissaient l'homme dans sa misère, avec son mauvais cœur, comme nous pouvons le voir dans les évangiles, chez ces docteurs de la loi, malheur à vous, hypocrite, leur dira le Seigneur Jésus. Alors, si nous ramenons ces pratiques judaïques, alors que nous en avons été affranchis, alors que nous savons que notre salut ne peut nous être octroyé que par la foi en Jésus-Christ, eh bien alors, tout en conservant Christ comme maître, nous faisons de Christ un ministre du péché. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, un ministre, nous faisons de Christ un ministre, c'est-à-dire un serviteur, ministre veut dire serviteur, un serviteur qui servirait le péché et qui le laisserait subsister, qui le tolérerait au lieu de l'ôter. Au verset 18, l'apôtre dit « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, c'est-à-dire si je ramène une observance hypocrite de la loi, observance contre laquelle j'ai lutté pour l'écarter et faire place à la justification par la foi. » Alors, si je ramène maintenant cette observance, quand il dit « je », n'est-ce pas, il veut dire « si l'on ramène », si vous voulez, n'est-ce pas, si l'on ramène cette observance hypocrite, alors on se constitue soi-même un transgresseur. Car l'ancien moyen de salut envisagé sous l'empire de la loi de Moïse a été écarté. C'était cette justice provenant de la loi, qui n'en est pas une. Les Juifs ont cherché la justice, n'est-ce pas, dans l'observation de la loi, et ils ne l'ont pas trouvée. Apôtre Paul nous le dit dans les Romains. Alors, n'est-ce pas, si cet ancien moyen de salut envisagé par les Juifs, nous ne pouvons pas le reprendre. Lorsque nous sommes entrés dans la foi chrétienne, nous ne pouvons pas le reprendre, ou alors ce serait une nouvelle transgression. Nous qui sommes venus à la justification par la foi en Jésus-Christ, si nous adoptons à nouveau un autre mode de justification qui n'est pas vrai, nous voulons nous appuyer à nouveau sur ce mode de justification qui n'a rien conduit à la perfection et qui n'a pas permis aux Juifs de trouver la justification de leur péché, alors Que faisons-nous à ce moment-là, n'est-ce pas? Eh bien, nous faisons une nouvelle transgression. Nous nous rendons à nouveau pécheurs. Nous retombons dans un état de péché, n'est-ce pas, si nous revenons à cela. En somme, en revenant aux pratiques judaïques, on revient à la prétendue justice qui venait des œuvres de la loi, et cette prétendue justice, n'est-ce pas, a été dénoncée comme devant être éliminée, écartée, au profit de la seule vraie justice qui se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Celui qui observe la loi comme moyen de salut, celui qui observe la loi comme moyen de salut est un transgresseur de la foi. N'est-ce pas? Transgresseur de la foi, voyez-vous. Voilà. Oh, c'est assez délicat peut-être, n'est-ce pas? Évidemment, cet exposé de l'apôtre Paul, mais pourtant, en le considérant bien, on le comprend. Celui qui observe la loi comme moyen de salut se fait transgresseur de la foi, et il se fait transgresseur de la loi spirituellement envisagée. Voyez-vous, autrement dit, lorsque l'on est venu, n'est-ce pas, au salut par la foi en Jésus-Christ, on ne peut pas retomber dans un faux moyen de justification, un faux moyen de salut, et ce faux moyen était celui la justification par les œuvres de la loi. On ne peut pas revenir à ça. C'est excessivement grave, et dans l'Église, cela se présente non pas toujours comme un mal endémique ou comme quelque chose qui se généralise à toute l'Église, à toutes les communautés ou à toute une communauté, mais cela se présente dans des cas particuliers, et il y a des chrétiens qui reviennent à la loi, n'est-ce pas, s'attachant aux pratiques de la loi, y voyant là vraiment la base, y retrouvant la base de leur salut, n'est-ce pas? Cela se fait quelquefois sans qu'ils le discernent trop eux-mêmes, mais attention, ils deviennent transgresseurs, disons, de la foi, c'est-à-dire transgresseur de la loi telle que le Seigneur l'envisageait. Par la loi, je suis mort à la loi, nous dira l'apôtre Paul. C'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Alors là, c'est évidemment, on sent, n'est-ce pas, très bien quel est le sens, mais c'est pas très facile de le dégager et surtout de l'expliquer. Enfin, efforçons-nous de le faire. La loi, d'abord, a eu ce rôle, nous dira Paul, cela nous le verrons, d'un pédagogue pour aller jusqu'à Christ. Un pédagogue. La loi a eu un rôle. Elle n'a pas eu le rôle de justifier, parce que l'homme, d'abord, ne pouvait pas l'appliquer pleinement, n'a jamais pu l'appliquer pleinement, elle n'avait pas, et puis elle n'était pas donnée pour cela. La justification nécessitait un grand sacrifice d'expiation. La loi, donc, était comme un pédagogue pour aller jusqu'à Christ. Elle préparait le peuple de Dieu, elle était aussi une garde, nous dit cette même épître aux Galates, elle était une garde, elle, en somme, établissait des garde-fous à droite et à gauche, n'est-ce pas, de la marche de ce peuple pour qu'il ne tombe pas dans le précipice de la corruption, comme les autres peuples. Elle le gardait, elle, en somme, empêchait le grand mal, bien qu'il y ait eu dans l'histoire d'Israël des périodes véritablement tragiques, et honteuse. Mais enfin, la loi était donnée pour ça. Elle a réussi quand même à cela, et elle a bien amené jusqu'au moment de l'apparition de Christ, elle a tout de même amené des hommes et des femmes, rappelons-nous la prophétesse Anne notamment, et puis enfin Marie qui a été choisi par Dieu pour la naissance du Seigneur, n'est-ce pas? Et elle a permis, n'est-ce pas, tout de même, d'amener jusqu'à ce moment-là, jusqu'au temps de Dieu, des hommes et des femmes qui étaient gardés de la corruption des peuples païens. Elle était un pédagogue. Un pédagogue, c'est un éducateur. Un éducateur. Elle était un éducateur, n'est-ce pas, comme un éducateur qui serait donné, par exemple, à un enfant, lequel enfant grandit, lequel enfant s'instruit par le fait même de cet éducateur. Mais il arrive un moment que la tâche de l'éducateur, n'est-ce pas, le rend lui-même inutile. Quand l'enfant est arrivé à ce point où il fallait que l'éducateur le conduise, à cette, si vous voulez, maturité où il fallait qu'il l'amène, ben, l'éducateur devient inutile. Il faut donc l'abandonner, l'éducateur. Et c'est bien ce que l'Épître aux Galates va nous montrer, n'est-ce pas? On abandonne l'éducateur pour alors retrouver un autre maître. Un maître, ceux qui, par exemple, font des études secondaires, et quand ils arrivent au terme de leurs études secondaires, il faut qu'ils entrent dans l'université, ils abandonnent donc leur maître qui était dans le secondaire pour en trouver d'autres, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela que Paul nous dira dans l'Épître aux Galates, et c'est cela qui montre le rôle de la loi, n'est-ce pas, en tant que pédagogue pour aller jusqu'à Christ. Nous pouvons aussi prendre une autre figure. Lorsque l'on emprunte un navire, par exemple, pour franchir une mer, et pour se rendre sur un autre continent, lorsqu'on touche ce continent, eh bien, on quitte le navire. On n'a plus besoin du navire. Le navire devient inutile. Il a joué son rôle, mais il devient inutile. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul nous exprime ici, car c'est par la loi que je suis mort à la loi. La loi m'a été utile, mais quand elle a eu joué son rôle, eh bien, je suis mort à la loi, c'est-à-dire que je n'avais plus besoin d'elle, elle n'avait plus de rôle à jouer pour moi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Et il y a déjà ce sens. Et puis, on peut aussi expliquer ce verset, cette allégation de l'apôtre Paul, c'est par la loi que je suis mort à la loi, en disant ceci, c'est que la loi avait pour rôle d'accuser, de condamner le pécheur à la mort. Et par conséquent, la loi m'a montré que j'étais dans la mort. Et alors, quand j'ai trouvé Christ, qui, lui, m'a fait vivre de sa vie de résurrection, eh bien, alors, je suis mort, n'est-ce pas? J'étais mort, je n'avais plus besoin de la loi qui m'accusait, qui me condamnait et qui me montrait ma position de mort, mon appartenance à l'empire de la mort, eh bien, cette loi a disparu, l'empire de la mort aussi a disparu, je suis mort à tout ça, n'est-ce pas? C'est assez difficile, j'en conviens, mais je pense que vous saisissez quand même la pensée de notre texte. Et puis alors, cette démonstration de l'apôtre Paul nous amène à ce beau verset 20, c'est un verset magnifique, alors celui-là s'éclaire bien mieux de lui-même. « J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Il faut bien savoir et comprendre que la foi a pour rôle non pas seulement de nous permettre de saisir une doctrine, de la comprendre, de l'assimiler, de nous l'approprier, la doctrine, mais bien plus, de nous approprier une personne. De nous approprier une personne, nous le disons quelquefois, mais cela est vrai, le salut, c'est une personne. Ce n'est pas la doctrine qui sauve, c'est une personne. Et la foi n'accomplit vraiment son rôle qu'en unissant le pécheur pardonné au Christ. Il y a une union. Cette union dont le Christ parle si clairement dans la fin de l'évangile de Jean, et notamment dans la prière sacerdotale au chapitre 17. La foi donc doit unir le pécheur repenti et pardonné à son sauveur. Cette foi le transplante en Christ. Si bien que la mort et la vie du Christ deviennent sa mort et sa vie à lui. La mort et la vie de Christ deviennent sa mort et sa vie à lui. Le crucifiement de Christ se reproduit en lui, il imprime en lui les conséquences spirituelles qui étaient inscrites dans le plan de Dieu, voulu par Dieu en livrant son Fils. Dieu voulait faire apparaître, faire ressortir de cet acte le crucifiement, la mort, le passage par la mort de son Fils, il voulait faire sortir d'énormes conséquences spirituelles qui retombent maintenant sur tous les siècles et aujourd'hui sur nous. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, n'est-ce pas, reçoivent les conséquences du crucifiement du Seigneur Jésus-Christ. Ces conséquences s'impriment, changent quelque chose en nous, elles disposent d'une force d'esprit qui modifie en nous quelque chose, modifie souverainement en nous des choses. Et qu'est-ce qu'elles modifient ? Elles modifient la nature de l'homme. Elles, ce qui s'appelle le vieil homme, elles le clouent à la croix, elles le crucifient, ce vieil homme, elle le fait mourir. Même si, dans les débuts de la vie chrétienne, ou dans les prolongements de la vie chrétienne, cette mort se trouve quelquefois mise en échec. Cependant, chers amis, ne perdons jamais de vue qu'elle est faite. Et cela nous fera beaucoup de bien. Si notre foi s'applique, non pas à regarder à ce qui semblerait nier cette crucifixion du vieil homme, mais s'applique à saisir l'affirmation de la parole de Dieu, parole qui est infaillible, cette parole nous disant, nous sommes crucifiés avec Christ. Le crucifiement de Christ s'est imprimé sur nous, a agi en nous, a opéré en nous, ce crucifiement voulu de Dieu, inscrit dans le plan de Dieu, a apporté ce travail en nous, n'est-ce pas, qui est un travail mise à mort du vieil homme, de notre ancienne nature. Il y a une nature qui est là maintenant sous l'emprise d'une mort, d'une destruction, elle ne doit plus revivre. L'homme de la chute est là maintenant saisi, jugulé. C'est ça que signifie « j'ai été crucifié avec Christ ». Et cela, chacun de nous doit pouvoir le dire et doit même s'appliquer à le croire. Non pas comme je viens de le dire, en regardant sur les fluctuations, hélas, fluctuations peut-être de notre vie chrétienne, mais en regardant l'affirmation de la parole de Dieu, n'est-ce pas, et en voulant, bien entendu, que cette mort devienne effective, se manifeste de mieux en mieux, elle doit se manifester de plus en plus, de mieux en mieux, dans notre vie chrétienne. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui ne signifie pas que l'apôtre Paul n'existe plus et que c'est un autre personnage, ce ne serait pas un salut si Dieu, n'est-ce pas, supprimait le personnage que nous sommes, l'individu, l'individualité qui est la nôtre, s'il la supprimait pour en mettre une autre. Ce ne serait plus de salut, ça. Il faut que nous conservions notre individualité. C'est ça le grand problème, n'est-ce pas ? Ce ne serait plus de salut, ce serait un autre. Il est évident que de nous, Dieu pourrait faire une autre créature. Ou alors, n'est-ce pas, comme le suggérait Satan, des pierres du chemin, le Seigneur pouvait très bien faire venir du pain, n'est-ce pas ? Alors, s'il y avait vraiment un changement total, radical, qui annule notre individualité, ce ne serait pas le salut. Alors, il faut que notre individualité subsiste, mais pas tout ce qu'elle comporte, n'est-ce pas ? Pas tout ce qu'elle comporte. Alors, l'individualité de Paul n'est pas supprimée, mais il y a une vie en commun. Il vit dans la chair, c'est bien moi qui vis dans la chair. Si quelqu'un qui m'a connu il y a 10 ans, 20 ans me voit, il me reconnaît bien. Il voit bien que c'est moi, le Saul de Tarse qu'il avait connu autrefois, c'est bien moi. Mais, cependant, s'il m'observe, s'il reste avec moi un certain temps, eh bien, il pourra voir que il y a une autre manière d'être, de parler, d'agir. Il y a même d'autres sentiments qui se manifestent de mon cœur. Tout cela, n'est-ce pas, c'est différent. Il sera étonné de voir paraître là, n'est-ce pas, une personnalité tellement différente, opposée même à celle qui était précédemment attachée à la même individualité, Saul de Tarse. Et c'est le Christ qui est là et qui a liberté pour manifester sa vie. Voilà, n'est-ce pas, quelle est... en somme, le mécanisme de notre vie chrétienne, hein, c'est celui-là. Notre individualité n'est pas annulée, loin de là, au contraire, Dieu la soigne, Dieu la préserve, notre individualité, il va la conduire dans l'éternité, même s'il nous donne un nom nouveau, hein, c'est toujours notre individualité pour que ce soit bien le salut, notre salut. Il ne nous supprime pas, mais Christ, dès maintenant, doit manifester sa vie en nous. Il faut qu'il en ait la liberté, non pas en faisant de nous des robots, non pas en nous réduisant à l'état d'esclave, lui prenant, par exemple, le commandement de notre personnalité, n'est-ce pas ? Et puis alors, ce qui était autrefois de notre personnalité, n'est-ce pas, ou ce qui, si vous voulez, est notre individualité, se trouvant en quelque sorte réduite à l'état d'esclave par une autre personnalité qui est là, qui est forte, qui domine, ce n'est pas ça du tout. Ce ne serait pas l'union, ça, n'est-ce pas ? Ce ne serait pas l'union, ce serait l'action autoritaire, c'est pas cela. Mais la personnalité de l'homme qui est sauvé et anti-Christ vit, la personnalité est tout simplement changée, modifiée, elle a reçu, elle a perdu certaines choses, elle en a reçu d'autres, elle est modifiée au point qu'elle dispose maintenant d'une volonté qui se conjugue avec la volonté de Christ. Si bien que c'est là une vie en commun, deux personnalités qui sont en quelque sorte conjuguées l'une à l'autre, deux personnalités qui vivent l'une dans l'autre et qui s'accordent pleinement. Cette vie en commun, cette vie dans l'union, n'est-ce pas, suppose un accord parfait. La volonté de l'homme, donc, est de laisser les sentiments de Christ s'exprimer, de laisser la vie de Christ apparaître de toute manière. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose de magnifique. C'est ça, la vie chrétienne. C'est pas autre chose. Sans ça, nous retombons, n'est-ce pas, avec les aperçus que l'apôtre Paul nous a donnés là sur le judaïsme, nous retombons dans des systèmes religieux. Les systèmes religieux, ça n'existe pas, ça, n'est-ce pas? C'est quelque chose du diable. Tout ce qui est religion, tout ce qui est soumission de l'homme à des rites, à un mode de piété, n'est-ce pas, quelconque, tout cela, c'est bien du diable. Mais le christianisme, c'est d'être uni par la foi avec Christ, au point que Christ puisse vivre librement en nous et se manifester en nous. Et c'est alors, n'est-ce pas, que l'on peut dire que son image grandit, apparaît, se forme, l'image de Christ, l'assujettissement libre à Christ s'opère pour arriver à son summum, à ce point où il faudra que le corps, lui aussi, change. Le corps tombe, ce corps qui ne peut pas hériter le royaume de Dieu, la chair et le sang, il faudra que ce corps lui-même tombe, n'est-ce pas? Absolument, il sera superflu et qu'un autre corps vienne. Mais ce sera bien la même individualité, notre individualité, n'est-ce pas, dans la voie du salut. Et alors, à ce moment-là, le corps même sera lui aussi à l'image de Christ, du corps de Christ, à l'image du corps de Christ. Et si bien que l'esprit, l'âme et le corps seront parfaitement à l'image de Christ, n'est-ce pas? Voilà l'aboutissement, la perfection sera là. Voilà le point de perfection visé, atteint, nous allons vers ce point de perfection. Que le Seigneur nous y conduise. Amen.